le fait de méditer comme nous le faisons, avec l'attitude que nous essayons de cultiver, implique nécessairement une certaine vision du monde. On doit bien par moments s'interroger sur cette vision du monde qui sous-tend la pratique de la méditation telle que nous la faisons. J'ai déjà entendu des enseignants de méditation qui disent « Moi, je ne fais pas de la philosophie. » Mais dès qu'on se met à enseigner la méditation, à être attentif à ceci ou cela, on est déjà dans une certaine vision du monde. On ne peut pas l'éviter. Alors si on en fait sans le savoir, c'est un peu dangereux. Donc autant au moins essayer d'être au clair sur ce que sous-tend la pratique telle qu'on l'enseigne. Donc j'aimerais aborder un peu ces questions ou cette question importante qui sous-tend notre pratique. Tout d'abord, le Bouddha revient constamment sur le sens de son enseignement et du chemin spirituel tel qu'il l'enseigne. Il dit il y a que ce qui l'intéresse, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Voilà ce qui le concerne. Le reste, ça ne l'intéresse pas, les spéculations autres, comme il y avait en Inde dans les Védas. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, lui, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. La souffrance est la fin de la souffrance. Dans la tradition Chan, on parle de la grande question de la naissance et de la mort. Donc, ce n'est pas une petite question, d'ailleurs, ils disent une grande question, la naissance et de la mort. Où la souffrance est la fin de la souffrance. Mais quand on parle de la fin de la souffrance, c'est une fin, pour dire, définitive. Ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas une sorte de zone de tranquillité. C'est vraiment atteindre une liberté qu'on appelle inconditionnée, qui dépend de rien du tout, qui n'est pas dépendante d'un calme, d'une tranquillité, d'habiter au moulinage. Ça dépend de rien. Et c'est quand même une affirmation extrêmement ambitieuse que de poser la possibilité d'une liberté inconditionnée qui ne dépendrait de rien du tout. Et c'est quand même ce qui sous-tend notre pratique, même si on peut en tirer des bénéfices, être plus calme, plus tranquille, mieux pouvoir intégrer les difficultés. Tous ces bénéfices sont importants et c'est quand même ce qu'on rencontre la plupart du temps. Mais n'empêche que la pratique s'inscrit quand même dans cette vision du monde avec une liberté inconditionnée. Mais si une liberté inconditionnée est possible, qui ne dépendrait de rien, il semble que la vision du monde dans laquelle nous sommes semble être en contradiction. On ne peut pas améliorer un peu le monde, changer, puis arriver à quelque chose d'inconditionné. Alors ça dépendrait, c'est inconditionné, de cette sorte de bricolage qu'on aurait fait, même s'il était élaboré. Donc ou bien il est possible qu'il y ait une liberté inconditionnée. Alors le monde, il n'est pas tel que nous le voyons, ou bien le monde est réellement tel que nous le voyons, et puis cette liberté inconditionnée, ça reste, quelque chose de complètement abstrait et utopique. Donc si le Bouddha enseigne la souffrance et la fin de la souffrance, quand il parle de souffrance, il parle de la mort notamment. Donc il parle de la cessation de la mort, non pas parce qu'on va disparaître et puis on n'a plus de soucis, non, il parle de la cessation de la mort en cette vie même. Ça c'est quand même un peu audacieux. Donc comment arriver à trouver du sens dans ceci? Mais c'est important de se poser ces questions, autrement on pratique comme si tout allait de soi, sans essayer de voir ce qu'il y a d'enjeu dans la manière de pratiquer, et notamment, néanmoins, une remise en question de la manière dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Si on veut garder tout exactement la même chose, le monde est soi-même. Alors c'est difficile de s'engager vraiment dans la méditation, puisque la méditation va avoir quelque chose qui conteste cette vision du monde et de nous-mêmes. Un peu comme voilà, vouloir entrer dans une rivière sans vouloir se mouiller. C'est assez difficile, donc, de se mettre à pratiquer en voulant garder exactement cette vision du monde et de soi-même telle qu'on l'a habituellement, communément. Ce n'est pas qu'on va trouver une vision limitée, on va perdre ceci, cela, tout ce qui était super, voilà, on l'a passé par la fenêtre, il ne reste plus grand-chose. Bon, mais c'est spirituel, mais il ne s'agit pas de ceci. C'est plutôt comme si on voyait le monde par le petit bout de la lunette, et puis tout d'un coup on se dit, bah, si tu la retournais, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'autre. Une vision plus vaste et une vision plus libre. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'arrêter de regarder toujours de la même manière. Donc j'aimerais aborder ce soir la question du moi. Une question essentielle, une question importante, mais je me rends compte en préparant ces exposés, notamment celui-ci, ce soir, bien que c'est comme s'il y avait des zones d'ombre par moment. Et que qui passe inaperçu en ce qui me concerne, quand je donne les explications ou quand j'en ai entendu, parce que j'en ai quand même souvent entendu, et tout d'un coup, un jour, on se dit, mais oui, tout ça a l'air bien huilé, c'est super. Et puis on dit, mais là, il y a quand même quelque chose qui joue pas. Comment rendre compte de ceci dans cet aspect-là? Je crois que c'est important de ne pas éviter ces zones de ces zones grises. Je donne un exemple parce que ça reste assez abstrait. Voilà, des sutras qui questionnent cette notion du moi, peut-être celui qui est utilisé le plus souvent, c'est l'Anuradha Sutra, où des ascètes vagabonds viennent rencontrer Anuradha, qui est vraiment un des plus grands disciples du Bouddha, c'est-à-dire des plus compétents, etc. Et ils viennent lui poser des questions. Ils disent, est-ce que le Bouddha existera après sa mort? Puis il dit, on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas s'exprimer comme ceci. Ils disent, alors, est-ce qu'il n'existera plus après sa mort? Ce n'est pas comme ceci qu'il faut le dire. Est-ce qu'il existera plus après la mort? Il dit, non, ce n'est pas comme ceci qu'il faudrait s'exprimer. Alors, ils ne sont pas contents, ils s'en vont assez fâchés en disant, mais enfin, on ne peut rien tirer de ce type-là. Et lui, il se dit, pourquoi j'ai pas bien pu répondre? Il se demande, est-ce qu'il y a une erreur dans ce que j'ai dit? Alors, il va voir le Bouddha, il raconte évidemment l'histoire, et le Bouddha interroge ce moine. Il lui dit, maintenant que je suis devant toi, est-ce que le corps, ce corps-là, est le Bouddha? Il lui dit, non, on ne peut pas dire ceci. Le corps change d'année en année. Il dit, alors, ce que c'est les sensations affectives, le fait qu'il y ait quelque chose d'agréable, désagréable? Il dit, non, on ne peut pas dire ça. Alors, les perceptions, le fait de voir, d'entendre, non, on ne peut pas dire ça. Alors, les pensées et les émotions, il dit non, ce n'est pas le Bouddha. Alors, il dit, alors est-ce que c'est la totalité? Il dit non, ce n'est pas ceci. Une totalité serait quelque chose de multiple. Il dit alors est-ce que le Bouddha existe à l'extérieur de tout ce qu'il constitue? Il dit non, on ne peut pas dire ceci. Donc, il dit alors que le Bouddha est en vie, si tu ne peux pas trouver ce qu'il est, pourquoi te poser la question sur ce qui sera après sa mort? Hein? On a souvent cette question, les gens demandent, bon, est-ce que tu crois en la réincarnation? Et on se rend compte que la question, c'est surtout en l'existence de quoi on croit, avant de vouloir répondre sur ce qui va se passer après. Donc là, on peut se dire, bah, bravo le Bouddha, a bien répondu, super, mais quand même, il y a quand même une question qui surgit, parce qu'on se dit, mais dans le fond, où est l'unité de l'individu là-dedans? On a l'impression qu'il a été un peu fragmenté en différentes parties, on ne l'a pas trouvé dans aucune des parties, dans le tout non plus. Mais quand même, je crois qu'il y a dans chaque individu un sentiment d'une unité de soi dont il faut bien rendre compte. Et cette manière de parler, très traditionnelle dans le bouddhisme, bien on se dit on a oublié cette question de l'unité dans le vécu. tradition donne différents points de vue, parce qu'évidemment, ces questions surgissent à un moment donné ou l'autre, et puis on se rend compte qu'ils sont pas, ils n'ont pas tous la même solution pour répondre à ceci, puisque le sutra, dans le fond, ne s'exprime pas. Alors certains vont dire que c'est juste le nom qui fait l'unité, mais c'est un peu difficile de se dire c'est juste un nom qui fait l'unité de soi-même. Vous voyez, donc on se questionne et tout d'un coup on arrive à ceci, on dit tiens, c'est quand même là, il y a quelque chose qui demande peut-être investigation, réflexion pour se dire je crois qu'il y a une chose importante à préserver, c'est l'unité de soi-même. Alors on verra ce que ça pourrait vouloir dire, mais on ne peut pas juste comme ça la passer sous silence et puis être tout content parce que dans le fond, dès l'origine, on voulait se débarrasser du moi, on ne l'a pas trouvé, on est très content. C'est quand même assez souvent ça qu'on remarque. Hein. On dit voilà, on veut arriver à ne le pas trouver, donc on trouve des arguments qui font qu'on ne le trouve pas. Voilà, c'est super, voilà, il n'y a pas de moi. Quelque chose de fabriqué dans le fond. Donc voilà, j'aimerais aborder cette question-là sous différents aspects. Essayer de donner ici une réponse que certains maîtres ont exprimée qui me semble, pour moi, faire le plus de sens. Et pour d'autres, puisque c'est une des solutions proposées. Et j'aime bien aussi faire appel à d'autres traditions parce que ces questions-là, évidemment, sur ce qu'est le moi, les bouddhistes en font vraiment un grand cas, mais ce n'est pas les seuls à se poser cette question. C'est une question qui surgit de tout temps et qui, dans le fond, mène à la même perplexité. Il n'y a pas de solution comme ça toute faite. Chaque fois que quelqu'un se pose la question, un philosophe, une philosophe, un penseur, une penseuse, on se rend compte que ben là, on est pris au dépourvu. Dès qu'on veut se dire, tiens, c'est ceci ou cela, il semble qu'il y a une difficulté. Grand spécialiste de la philosophie du Moyen Âge, Alain de Libera, il écrit 4 volumes, et ils sont drôlement grands, sur l'archéologie du sujet. Moitié en latin, moitié en grec, le reste en allemand. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait facile à lire, surtout quand on ne connaît ni l'allemand, ni le grec, ni le latin. Mais n'empêche qu'il y a quand même, on se rend compte que cette question est une question importante et que beaucoup de penseurs se sont posées. On en verra, j'en citerai un ou deux pour montrer que cette question, elle est dans le fond, elle appartient peut-être à la condition humaine que de se poser cette question, qu'est-ce que le moi? J'ai paraphrasé ici Saint Augustin qui disait à propos du temps, il disait, si on ne me demande pas ce que c'est, je sais, si on me demande, je ne sais plus. Bon, on pourrait dire la même chose au niveau du moi. On peut l'utiliser, etc. Mais si on dit, c'est quoi vraiment ce moi? Là, tout d'un coup, ça devient plus difficile. En plus, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant parce que tout le monde s'attribue le droit de dire moi. Il n'y a personne qui peut dire, mais t'as pas le droit de dire moi, c'est moi ici. Donc c'est un terme qui, vous vous rendez compte, il a des milliards de sens différents, d'une certaine manière, puisque des milliards de personnes ont le droit, dans des langues différentes, mais enfin on revient au même, à dire moi, je. Donc c'est quand même quelque chose d'assez insaisissable. Je vous relis ces quelques phrases de Camus dans le mythe de Sisyphe parce que c'est assez clair. Bon, j'ai résumé ici un petit peu ce qu'il dit. Car si j'essaie de saisir ce moi, si j'essaie de le définir, il n'est plus qu'une eau qui coule entre mes doigts. Je puis dessiner tous les visages qu'il sait prendre, mais on n'additionne pas des visages. Entre la certitude que j'ai de mon existence et ces divers visages, le fossé ne sera jamais comblé. Pour toujours, je serai un étranger à moi-même. Il s'est posé la question, hein, honnêtement, il ne saute pas sur une sorte de solution. Donc il y a là, évidemment, une interrogation. Et pourquoi les bouddhistes y attachent tellement d'importance? C'est que la confusion qu'on peut avoir au sujet du moi est lourde de conséquences, puisque tout ce qu'on fait, c'est quand même pour lui. On vit pour lui, tout ce qu'on fait, mais les moindres petits trucs. Même des fois, on lui en veut, mais c'est encore parce qu'on est attaché à lui. que si vraiment on n'y était pas attaché, pourquoi on lui en voudrait comme ça parfois? Donc, toute la motivation de nos actions, tout ce qu'on fait, si on est venu ici, c'est à cause de lui. Peut-être pour s'en débarrasser, mais c'est quand même à cause de lui. Donc, pour le bouddhisme, il est très important. Et je crois que la question, peut-être, du fait de se libérer de la mort, tient exactement à cette question-là. Que ceci n'a pas de sens, se libérer de la mort, dans la mesure où on est attaché à une certaine réalité de ce moi. À ce moment-là, ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a une autre manière de l'envisager qui rend cette liberté de la mort possible. Pour ceci, je voudrais juste revenir à la notion de concept que j'ai déjà évoquée l'autre soir. Peut parler du parc ici, du parc du moulinage. Oui, le parc du moulinage, tout le monde sait de quoi je parle. Mais est-ce que, dans cette évocation-là, est-ce que c'est le parc le matin que vous imaginez, l'après-midi ou le soir, la nuit? Ce concept reste vague pour pouvoir accepter tous ces instants. Il n'est ni le matin, ni le soir, ni à midi. Il est juste le sens qu'on veut donner à ceci pour que il puisse aussi être le soir, le matin et la nuit. Donc le concept, on a vu que c'est quelque chose de stable, qui ne change pas d'instant en instant. Le parc, lui, il change d'instant en instant, mais le concept, lui, il est stable. Même manière pour la salle à manger ou cette salle ici, on a vu que voilà, la salle à manger, ben, est-ce que c'est maintenant avec la lumière? On sait qui a laissé la lumière ou pas de lumière avec toi, on ne sait pas. Quelle allure il a en ce moment? Il a simplement cette allure assez vague qui peut être le réfectoire le matin, à midi et le soir. Ça reste, tout reste possible dans ce terme ici. Pour revenir au terme fleur, comment fleur, ça peut s'appliquer à tellement de plantes différentes. Rose ou tulipe, il n'y a aucune fleur. A le droit de garder le mot fleur juste pour elle. Non, je suis désolé. Toi, la tulipe, t'as pas le droit de t'appeler fleur parce que moi, la rose, c'est moi qui ai pris le nom, quoi. Tout peut recevoir ces termes-là. C'est donc quelque chose de vague, de vaste. Ce qu'on remarque en soi-même, par exemple, eh bien, voilà, je peux dire moi, quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce terme a bien quelque chose de suffisamment générique pour pouvoir s'appliquer à tous ces moments différents. Mais si je regarde, moi à 5 ans, j'ai changé. Physiquement, psychologiquement, socialement, pour ainsi dire, plus rien, toutes les cellules de mon corps ont changé. Et pourtant, je peux dire avec la même conviction, moi je, si je regarde une photo à 5 ans, oui, c'est moi à 5 ans, avec la même conviction à 10 ans, etc. Donc il y a quelque chose ici qui est justement cette stabilité du concept, qui fait qu'il est utilisable, applicable, comme fleur. C'est juste, ça nous aide. Si tu veux pas aller acheter des fleurs pour mettre sur l'autel, ben voilà, on va pas revenir avec un sac de fruits, puisqu'on a compris ce dont il s'agissait. Donc ce sens est juste. On rencontre une personne, ah bonjour, comment ça va? On dit, mais qui c'est? Mais qui c'est? Mais qui c'est? Mais ah, voilà, c'est lui ou elle. On a mis le mot juste. Ah, t'as bien changé. Et donc là, et pourtant, on dit je l'ai reconnu. Hein, c'est juste. Et on a besoin de ceci. Autrement, on ne pourrait pas fonctionner. T'as bien changé, mais il y a quand même quelque chose qui fait que je peux dire, voilà, c'est toi. Donc le concept a cet aspect intéressant, qu'il est stable et qui permet justement de notamment pour nous, de rencontrer une autre personne, de se rendre compte, dans le fond, que c'est la même personne, même si elle n'est pas la même chose en ce moment-là. Mais qui est-ce qui est le même dans cette personne qui fait qu'on peut lui dire c'est toi ou que je peux dire c'est moi? Que je peux dire c'est moi avec la même conviction, à nouveau à 5 ans, 10 ans, etc. On pourrait dire ici que c'est aussi la question de l'unité que j'évoquais en début de discussion. Ce qui fait que j'ai le sentiment d'une certaine unité et non pas de quelque chose de fragmentaire tout au cours des années. Même si, dans le fond, les éléments ont changé. On n'a pas l'impression que c'est qu'un nom. On a l'impression que, voilà, que si on dit, tiens, lui, elle, il est grand, il est petit, elle est grande, elle est petite, on pourrait dire combien il pèse ou combien je pèse, etc., parce qu'on ne demande pas en général aux autres personnes. Mais un moi, est-ce qu'un moi, ça a du poids? Est-ce que c'est grand, c'est petit, c'est jeune, c'est vieux? Ça ne veut rien dire. Le moi lui-même, il n'a aucune caractéristique. S'il est asiatique ou africain. Et la confusion vient du fait qu'on veut lui donner des caractéristiques spécifiques. Et qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on le solidifie, on le chosifie, et ça devient justement cet événement, ce phénomène contraignant, parce qu'on lui donne des caractéristiques solides, concrètes, etc., et qu'il n'a pas en réalité. Donc la question reste, qu'est-ce qui permet de donner ce sens de l'unité, d'avoir ce sens de l'unité? Je ne pense pas que c'est le nom uniquement, le fait de dire moi. Parce que je pense que ce sens et cette certitude de l'unité est quelque chose de clair et de fondamental. Je vais vous citer un scientifique, un prix Nobel, je ne sais plus en quelle année, 72, je crois, Edelman. Citation que j'ai déjà donnée parce qu'elle me semble très claire. Il dit, je crois qu'il faut faire une distinction entre la conscience primaire et la conscience d'ordre supérieur. La conscience primaire, elle consiste à être conscient des choses du monde. On voit, on entend ce qui permet d'aller chercher de la nourriture, d'aller chercher de l'eau ou d'éviter ceci ou cela. Donc c'est vraiment la conscience au niveau fonctionnel. Il dit, les humains ne sont pas les seuls à la posséder, c'est aussi le cas des animaux. Tout organisme un peu élaboré doit avoir cette perception d'une manière ou d'une autre du monde pour s'orienter, pour fonctionner. Donc ceci, on partage avec les animaux et c'est quelque chose évidemment qu'on a bien développé, cette manière aussi de différencier les choses du monde. De manière extrêmement minutieuse. Mais maintenant, il dit, au contraire, la conscience supérieure implique l'aptitude à être conscient d'être conscient. Conscience supérieure, quel que soit le terme qu'on veut donner ou le sens qu'on veut donner à ce supérieur, mais c'est quand même une autre maturation de la conscience qui fait qu'elle est consciente d'être consciente. Pas seulement de voir l'eau, mais consciente de voir l'eau, d'être en train de voir l'eau. Pas seulement la conscience du son, mais la conscience d'entendre. Conscience d'être conscient du monde, quel que soit ce dont on est conscient, c'est ce qu'on appelle présence. Donc on pourrait très bien être conscient du monde, précisément, avec attention. On pourrait observer la rivière, les vagues sur la rivière, je ne sais pas. Les feuilles des arbres en face ou qui sont juste en train de naître, sans être préoccupé par le passé ni par le futur, très attentif au monde, sans qu'on ait de présence, sans qu'il y ait de manière évidente cette conscience d'être conscient du monde. C'est la différence entre l'attention et la présence. Donc on peut, sans être distrait, ne pas être présent. Parce qu'on est attentif. Pour imaginer un joueur d'échecs, mais ce n'est pas un très bon exemple parce que je pense qu'il est beaucoup dans l'anticipation. Mais peut-être un autre exemple de quelqu'un qui serait, un ornithologue qui serait dans la forêt en train d'écouter très attentivement ce chant de l'oiseau et puis d'un autre. Il n'est pas distrait, il ne pense pas avant, après, mais il n'est pas conscient d'entendre, il est conscient du chant de l'oiseau. Pas distrait, mais il n'est pas présent. Donc cette conscience d'être conscient, c'est pas quelque chose qu'on doit créer ou qui naît, elle est là constamment, à chaque instant, mais on ne l'aperçoit pas quand on est fasciné par le monde, préoccupé par le monde. C'est dans la mesure où cette préoccupation par le monde, cette fascination pour le monde se relâche, on est plus disponible à soi-même, voyez, plutôt que d'être vers le monde, quand on est plus reposé en soi-même, disponible à soi-même, à ce moment-là, cette conscience de soi-même, elle apparaît de manière claire. Moins on sera pris dans le monde, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, plus cette conscience de soi sera claire, plus cette présence sera évidente. Elle est là à chaque instant, quelle que soit l'expérience. Audition, vision, pensée, émotion, etc. Mais cette conscience de soi, elle est la même dans la vision, dans l'audition, dans toute expérience. Elle n'est pas autre. Elle est simplement conscience de conscience. À nouveau, présence. La présence dans l'audition, dans la vision, n'est pas différente. La vision est différente. Tient de ce qu'on voit, l'audition aussi. Donc je pense que l'unité qu'on ressent, c'est justement qu'à chaque instant, il y a cette conscience de soi. Quel que soit la perception, quel que soit ce qui se passe. Je me souviens avoir lu une phrase dans un texte du troisième Karmapa qui disait: dû à la confusion, nous prenons cette conscience de soi pour un moi. C'est-à-dire qu'on la chosifie. Cette conscience de soi, elle n'a pas de forme, elle est là à chaque instant. Et tout d'un coup, pour la saisir, on en fait une chose, on lui donne une forme, un poids, etc. On lui donne plein de caractéristiques qu'on peut mettre sur une carte de visite, etc. Donc il y a là tout d'un coup une sorte de chosification de ceci qui n'est pas chosifiable parce que ce n'est pas des choses, ce n'est pas des objets, c'est juste une conscience. Donc quand il y a confusion et qu'on a chosifié cette conscience de soi, par la solidité qu'on donne au terme moi, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est contraignant, qui est limité. Donc ce que veut dire la question, le questionnement du moi, c'est de dire on peut bien le laisser comme conscience de soi dans toute expérience, mais quand on le réduit à quelque chose comme l'émotion, quand je pense que le moi il est triste, je m'enferme là-dessus, je chosifie aussi la tristesse, tout d'un coup ça devient quelque chose de solide, de contraignant. Ou alors il est intelligent, ou il est stupide, ou il est ceci, cela. Voilà, on a chosifié ceci. Donc dans le fond, le moi, c'est le représentant au niveau des choses de cette conscience de soi. Et ceci est nécessaire, ce n'est pas un défaut. Mais quand tout d'un coup on lui donne une réalité qu'il n'a pas, alors ça devient encombrant, ça devient limitant. Tout d'un coup, il est de trop. Et ce qui fait qu'il est de trop, c'est parce qu'on l'a affublé de beaucoup de caractéristiques qu'il n'a pas. Si on le laissait simplement comme expression de cette conscience de soi à chaque instant, dire moi, si on parle évidemment, il faut dire moi, représente justement ceci. Mais dès que, on voit bien, quand on médite, si, je ne sais pas, si on est découragé, oh, j'y arriverai pas. Là, on voit bien, on a une image de quoi? De ce moi qui est dans l'échec, qui fait ceci, qui est cela, mais cette présence à soi, elle n'est pas ni dans l'échec, ni dans le succès. Dès qu'on s'attache à cette tristesse, comme je suis triste, ou je ne sais pas, je suis inquiet, on se rend bien compte qu'on a rassemblé sur ce moi chosifié quelque chose, une caractéristique ici de tristesse, d'inquiétude, et tout est figé. À ce moment-là, ceci apparaît comme quelque chose de solide. Alors que cette présence à soi, revenir à la manière dont conscience de soi, dans la manière dont Edelman l'explique, que par moments, cette conscience de soi apparaisse comme tristesse, comme inquiétude et autres, mais si on ne la solidifie pas, elle n'est pas un problème. Cette conscience de soi n'apparaît pas dans la temporalité. On pourrait dire, alors elle est permanente parce qu'elle existait. Voilà, je peux la reconnaître à 5 ans, à 10 ans. Non. Cette conscience de soi, elle est là à chaque instant. Celle d'hier et autres, elle n'existe plus. Elle se régénère d'instant en instant, semblable à elle-même. Elle ne prend pas une autre notre caractéristique, même si elle peut apparaître dans la tristesse, dans la joie, dans le calme, dans la tranquillité. Prendre un maître indien du 8e siècle, il dit, la conscience est exactement l'opposé des choses matérielles, inanimées, elle est essentiellement conscience de soi. Sa nature essentielle, c'est conscience de soi. Alors que nous, on en fait conscience du monde, ce qui est important, mais on a la peine de sortir de ceci. C'est comme si on reste au premier niveau de ce que Heldman expliquait et qu'on a de la peine à passer à ce deuxième niveau parce qu'on est toujours concerné par le monde qui est perçu autre, même quand c'est soi-même, dans cette espèce d'observation de soi-même, ce qui est important, c'est ma douleur ici, c'est ceci là, c'est ma somnolence, etc. On reste encore comme si on observait le monde, même si c'est ce monde intérieur ou ce monde que nous formons. On est toujours dans la même attitude, dans ce même déphasage par rapport à cette conscience de soi. Je reviens à Saint-Augustin. Il dit, ce que je retrouve ou ce que je trouve en rentrant en moi-même, ce n'est pas moi, l'ego, c'est la lumière divine. Si on peut dire que pour nous, c'est cette présence. Donc lui aussi, quand il essaye d'être en lui-même, sans s'attacher à ceci ou cela, qu'est-ce qu'il découvre? C'est pas quelque chose, le moi ou l'ego, quelque chose de limité, c'est quelque chose pour lui d'illimité, qu'il appelle lumière divine dans son langage. Je donne un exemple qu'un psychiatre donnait, qui s'appelle Leng, qui avait écrit Le moi divisé. Donc il donne l'exemple d'une patiente, je crois, qui est allée au cirque et qui était tellement fascinée par le cirque qu'elle s'est oubliée. Et à un moment donné, elle a réalisé ceci, elle était prise de panique et elle a dit « Je ne dois jamais m'oublier, fût-ce pendant une seule minute. » Le fait qu'elle ait été complètement absorbée dans le monde, tout d'un coup, elle a cru qu'elle n'existait plus. Prise de panique, donc elle ne peut pas se permettre ceci. Une personne qui a une structure, évidemment, du moi assez peu stable. Mais ce qu'on découvre lorsque on s'ouvre à cette présence, à cette conscience de soi à chaque instant, c'est l'inverse d'une incertitude. Parce qu'au contraire, il n'y a rien de plus certain que cette conscience de soi, puisqu'elle ne dépend pas de concept, elle est là dans cette perception immédiate d'elle-même. Donc on est complètement à l'inverse d'une manière où tout d'un coup on pourrait être amené à douter de sa propre existence. Ici, je pense que, je ne suis pas spécialiste des cas de cette personne, mais je pense qu'elle s'identifie à différentes choses et que là, tout d'un coup, elle ne l'a pas fait en tant que chose, elle a disparu. Si elle avait évidemment été présente dans cette fascination, je ne sais pas, pour les clones et autres, elle n'aurait pas eu ce sentiment-là. Donc lorsque on explore cet aspect confus qu'on donne au moi parce qu'on lui attribue des qualités qu'il n'a pas, et que tout d'un coup on peut s'ouvrir à une expérience où ce moi n'est pas là en tant que chosification de cette présence, c'est l'inverse d'un doute qu'on pourrait avoir par rapport à sa propre existence. C'est une évidence, non seulement une évidence dans le fait d'être là, mais aussi dans la totalité, d'être là en tant que totalité, non pas en tant que phénomène fragmentaire. Je ne crois pas quand on questionne le moi qu'il s'agisse tout d'un coup de se dire oh, mais alors qu'est-ce que je vais perdre? Je vais être avec plus rien du tout et autre. Ce qu'on perd, c'est cette confusion qui faisait qu'on lui attribuait des qualités, des solidités qu'il n'a pas, mais lorsqu'on le laisse simplement comme expression juste de cette conscience de soi, à ce moment-là, on se rend compte que c'est au contraire la découverte d'une totalité qui nous manque, parce que le moi, comme il est toujours chosifié, il est limité. Limité à ce corps, limité à cette émotion, à la tristesse. S'il est limité à la tristesse, il ne peut plus jamais être heureux. C'est bien un peu l'impression qu'on a quand on éprouve de la tristesse. Ben voilà, le monde, il sera toujours triste dans cet instant-là. C'est pour ça que je parlais de voir par le petit bout de la lunette. Chaque fois, on a l'impression que quelque chose de très restreint surgit. Et on est limité. Donc ce qui est peut-être frappant dans cette conscience de soi, quand elle est éprouvée, clairement pas. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne s'attache pas à ceci, cela, je suis ceci, cela. C'est pas parce qu'on doit éliminer le moi qu'on le met à la porte, qui rentre par la fenêtre, qu'on le jette. C'est simplement, on lui donne pas une solidité qu'il n'a pas. Dans quelque chose de plus simple. Dans l'audition, si j'entends l'oiseau, par exemple, là, il y a une construction, il y a un jeu. Vous voyez, l'audition, c'est quoi? C'est la conscience d'un bruit. Et tout d'un coup, on met cette sorte d'entité permanente qui est derrière, qui entend. J'entends, je vois, hein, j'entends l'oiseau, je vois les arbres. Ben, on a créé quelque chose là, cette sorte d'unité qui est le même je qui entend, qui voit. Alors que dans l'audition, là, j'entends le chant de l'oiseau, il y a cette l'audition de ceci qui est conscience de soi. De la même manière, dans la vision, il y a une conscience de soi qui est des arbres, qui fait justement cette unité du sujet, sans qu'il y ait besoin d'une sorte d'entité solide qui serait derrière et qui contrôlerait un petit peu tout. De l'ordre de l'ouverture, ce qui est frappant dans cette conscience de soi, c'est qu'évidemment, elle n'a pas de caractéristique, à part celui d'être conscience de soi. Elle n'existe pas au passé. Le passé, c'est une sorte de concept qu'on va créer, ni au futur, ça ne veut rien dire. Elle est là, dans le fond, hors temporalité. Hors temporalité, ça ne veut pas dire éternel. Je vous cite une remarque de Sartre qui m'avait extrêmement surpris dans le carnet de la drôle de guerre. Il dit, la mort n'a de sens qu'au niveau du moi. Pas pour la conscience, parce qu'elle ne peut pas se représenter sa propre inexistence. Comment la conscience pourrait s'imaginer ne pas exister, puisque en se l'imaginant, elle est toujours là. Et on ne peut pas s'imaginer que la conscience serait plus là, parce qu'on reste quand même dans cette imagination. Donc, ce que dit Sartre, voilà, qu'est-ce qu'il a, 22, 23 ans, là, pendant la guerre, il dit, ben voilà, là. La mort, ça n'a de sens que pour le moi, ce moi qui est solidifié, mais au niveau de la conscience, de la présence, ça ne veut rien dire du tout. Parce que ce n'est pas inscrit dans une temporalité avec des caractéristiques propres, c'est quelque chose de l'ordre de la totalité, et il n'y a rien à l'extérieur de cette totalité. Déjà pour montrer comment l'affirmation du Bouddha que peut se libérer de la mort. Déjà là, en se libérant de cette confusion par rapport au moi, auquel on donnait des caractéristiques presque solides, matérielles, etc., là, on se rend compte. Alors, je peux vous dire que Sartre, à ce moment-là, n'avait pas lu des livres sur le bouddhisme, d'ailleurs, ni plus tard, je ne crois pas, mais il a ceci dans cette intuition à ce moment-là, en se disant que la conscience, quand elle est sans s'attacher à ce moi, sa mort n'a pas de sens. Ça revient toujours au niveau du moi. Encore une citation pour montrer que ces questionnements, voilà, c'est pas spécifique à l'Orient, mais Paul Valéry aussi a des très belles expressions de ceci avec son langage. Hein. Il dit, je ne me suis jamais référé qu'à mon moi pur. Moi pur ici, c'est la conscience, la présence, par quoi j'entends l'absolu de la conscience, qui est l'opération unique de se dégager automatiquement de tout. Dans ce tout figure notre personne même, avec son histoire, ses singularités, ses complaisances propres. Voilà ce que Paul Valéry découvre dans son écriture poétique. Donc quelque chose qui est découvert naturellement lorsque on laisse tomber un peu cette confusion qui veut donner au moi des caractéristiques qui ne sont pas les siennes. C'est un texte cité par Luther. Un théologien du XVe siècle, il dit, en cette vie, il n'y a point de moi, de mien et d'autres titres semblables qu'on puisse s'attribuer. Vous voyez, donc on a quand même des horizons un peu différents qui arrivent quand même aux mêmes conclusions. Que dès qu'on veut saisir quelque chose, on se rend compte que c'est que ce qu'on rajoute. Donc, pratiquement, comment est-ce que nous explorons ceci? On ne se bat pas contre la notion du moi ou autre. Je reviens, je crois, sur ce sutra. Enfin, il y en a un ou deux pour illustrer l'attitude méditative. Quand le Bouddha répond au moine Malunkyaputta, qui lui demande de lui enseigner la méditation brièvement, parce qu'il est âgé, et qui lui dit, lorsque dans la vision, il n'y aura que la vision, dans l'audition, que l'audition, ceci pour les cinq sens, c'est dans la pensée que la pensée, ou le pensée que le pensée, tu ne seras plus ni ici, ni là, ça c'est la fin de la souffrance, hein, le nirvana. Il donne l'indication pratique, c'est peut-être une des plus claires indications du point de vue pratique. Lors de la vision, de l'audition, donc tout ce qui se passe pour nous. On n'a pas à se dire, mince, si seulement il se passait ceci, je pourrais essayer d'explorer. Ça se passe à chaque instant. Lors de la vision, de l'audition, de la sensation corporelle, de la pensée, de la tristesse, de la somnolence. Lorsqu'il n'y aura plus que la vision, tu ne seras plus ni ici ni là. Ça veut dire, quand il dit tu ne seras plus ni ici ni là, il veut dire qu'à ce moment-là, tu t'identifies plus. Il y a juste la conscience de voir. Quand dans la conscience de voir, il n'y a que la conscience de voir, ça c'est la liberté. Dans la conscience d'entendre, il n'y a que la conscience d'entendre, ça c'est la liberté. Donc il nous donne là une indication très précise pour la manière de pratiquer. Non pas de se battre contre, une sorte d'illusion, mais de rester au plus proche de l'expérience elle-même. Vision, audition, mais aussi émotion dans la tristesse. Il n'y a que la tristesse, il n'y a pas de moi ici ou là, à ce moment-là. C'est la liberté, somnolence, calme, tranquillité, sérénité. Dans toute expérience, quand il y a cette intimité à l'expérience, cette manière d'être, simplement ceci, tu ne seras plus ni ici ni là. C'est la liberté. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans les instructions, si vous voulez. Ça a l'air drôlement simple. Ben, c'est super, là j'ai vraiment compris. Dans l'audition, que l'audition, la vision, que la vision, etc. Et on s'assied et tout d'un coup, il y a des tensions, il y a de la douleur, il y a de l'angoisse. Attends, voilà, dans l'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? Que l'angoisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en cours de route, on rencontre aussi des sortes de tensions et autres qui fait que ce n'est pas si simple d'être juste dans l'audition et la vision et autres. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est cette attitude que nous explorons. Et lentement, s'il y a des tensions corporelles, ben, il s'agira aussi d'essayer de les toucher avec cette clarté pour que finalement, elles ne soient plus des entraves. Mais c'est clair que souvent ça nous demande de la pratique. Selon les tantras, il me semble, donne une indication très intéressante. L'ignorance, ce n'est pas simplement le fait de se tromper sur le nom de la rivière ou le nom des autres personnes, ni le simple fait de saisir comme ça, par le concept. L'ignorance, pour les tantras, a une dimension corporelle. C'est aussi des nœuds d'énergie qui sont bloqués dans le corps. Et c'est quand même bien souvent ça qu'on rencontre. Parce qu'on se dit, c'est quand même pas sorcier ce truc-là, juste dans l'audition, quoi. Ça fait souvent qu'on l'entend. Pourquoi on n'en est pas juste là-bas? Il y a quand même ces nœuds d'énergie hautes qu'on rencontre. Et le fait d'amener cette présence au corps est un moyen, pour moi, extrêmement judicieux de pouvoir laisser ces nœuds se dénouer. Ce n'est pas juste des nœuds comme ça, c'est des nœuds évidemment auxquels sont liées des émotions. Donc il s'agit pour nous de toucher le nœud, de sentir cette dimension corporelle et aussi émotionnelle pour lentement que ça puisse se dénouer. Parce qu'autrement, si on dit juste le Baya Sutra, on dit mais c'est tout simple, pourquoi j'y arrive pas? Voilà, on rencontre en cours de route un peu ces nœuds qu'on a en soi-même et qui lentement se dénouent. On sent bien dans le cheminement qu'il y a quelquefois des nouages qui se font et qui permettent une plus grande sensibilité. Donc ça fait partie du processus, c'est pour ça que je trouve que cette conscience qu'on donne au corps, elle permet, évidemment on va toucher les émotions autres, elle permet d'une manière assez naturelle pour que ces nœuds se dénouent. Naturel, ça ne veut pas dire immédiat, rapide, ça veut dire que on explore comment être dans la disposition juste dans cette difficulté. Et lentement, je crois qu'on sent qu'il y a des choses qui se dénouent. On voit bien dans ce que les personnes décrivaient ou autres, il y a quelque chose qui se dénoue, peut-être autre chose qui surgit, mais on a l'impression qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui s'est défait. Cette conscience de soi, ce n'est pas la fin du chemin bouddhique, mais c'est quand même un des aspects importants qui permet déjà d'éliminer une grande confusion.